6h03, mercredi 13 juin. Bonne journée, bienvenue à l'antenne du 98.5 FM. Un ciel partiellement nuageux, on entre dans une période un peu plus grise, avec donc des nuages ce matin, des averses qui vont commencer cet après-midi. Risque d'orage également. 24, c'est le maximum prévu. Chaud, humide avec 29 pour ce qui est de l'humidex. Encore en soirée, des averses, risque d'orage également. 15 pour la nuit prochaine. Demain, c'est de la pluie ou de la bruine intermittente toute la journée avec un maximum de 18. Retour du soleil vendredi 23 avec quand même pour le week-end un très beau samedi d'abord, 29 degrés ensoleillé. C'est moins terrible pour dimanche, assez nuageux et possiblement de la pluie en fin de journée. En tout cas, ce sont les prévisions pour l'instant. Premier sujet ce matin, bien sûr, le sondage de la firme Léger, diffusé hier par LCN, concernant le portrait à quelques mois des élections au Québec. Et la tendance commence à se dessiner un peu plus clairement. Et on va pouvoir le décortiquer tantôt avec Mario, mais essentiellement, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la CAQ, après avoir grimpé, après avoir fait un petit peu de surplace, semble s'envoler vers un gouvernement majoritaire. Ça veut dire que la CAQ est en train de balayer pratiquement toutes les régions du Québec. Le 4-5-0, la région de Québec, fait des gains au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand vous regardez ça, là, les libéraux arrivent à conserver les châteaux forts, là. L'espèce de 30-33 comtés là, qui constituent la base inébranlable du Parti libéral. Et on pense à l'île de Montréal et quelques autres circonscriptions. Le PQ, qui est à 19 % qui n'a jamais été aussi faible, tomberait, selon les projections de Brian Beckett, qui est un analyste expert, là, qui fait comme ça une espèce de ventilation, une projection selon les comtés, tomberait à 5 députés. C'est 83 pour la CAQ. Quand tu dis que le PQ est à 5 députés, c'est même pas un parti qui serait officiellement reconnu. C'est une déroute complète. Et le PQ aurait un siège de plus que Québec solidaire. Alors, comment on peut... C'est un portrait, ça peut changer. Je pense qu'on va tous faire une pause un peu politique. Durant l'été, on va en parler un peu moins, puis ça va repartir au mois d'août pour l'élection en octobre. Et encore, ça peut changer. Mais ce qui semble en tout cas assez ancré dans l'opinion publique, c'est un vent de changement. On l'a vu en Ontario. On ne peut pas comparer les deux provinces. Les profils sont différents, les intérêts étaient différents, mais je pense que c'est plus de 70 % des gens qui veulent un changement. Et quand tu veux un changement, comme on l'a vu au fédéral à la fin du régime conservateur, tu regardes qui a le plus de chances de l'emporter. Si ta volonté, c'est celle-là, là, ben tu as tendance à te ranger du côté du parti qui a peut-être est en meilleure place pour réussir le changement. Et puis je l'ai mesuré avec des gens que je connais, qui ne sont pas des caquistes, là, mais qui veulent changer de gouvernement puis qui se disent, regarde, c'est la CAQ qui est le plus proche, on va se ranger avec la CAQ. Alors, vous avez les militants, les partisans de base, les noyaux, comme au Parti libéral. Mais le Parti libéral, là, est au plancher. Là, il ne peut pas vraiment aller plus bas que ça. Et la conséquence de cette vague caquiste en vue, c'est que vous avez des ministres qui sautent, qui sont menacés. Pierre Moreau dans son comté, par exemple. Des figures dominantes au Parti québécois comme Véronique Yvon. Plusieurs ministres, je pense aussi à Lucie Charlebois, qui serait donc menacée. La CAQ pourrait aller chercher Pointe-aux-Trembles. Jean-François Lisée dans Rosemont, c'est assez serré. Alors, je pense qu'on peut, à la fin de la saison politique, dire aujourd'hui que les Québécois qui veulent du changement ont l'air de se ranger du côté de la CAQ. La CAQ qui a un discours qui s'est recentré un peu, hein, qui, d'ailleurs, est très habile dans le message qui touche les gens. Pas juste un slogan vide, mais des trucs qui concernent la famille québécoise, les préoccupations sur plusieurs sujets. Ça risque d'être assez excitant quand même comme campagne électorale l'automne prochain. Premier sujet. Il y a deux lois qui sont entrées en vigueur. Parlons d'abord de celle sur le cannabis qui a été adoptée. Et on sait que Québec a encadré la vente du cannabis en disant que c'est l'État qui va vendre et il n'y aura pas de culture à domicile. Je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, on le voit ce matin dans le Globe and Mail. les sénateurs qui ont fait des amendements à Ottawa, justement en appui aux provinces, comme l'Ontario et le Québec, c'est sûr que Justin Trudeau ne va pas dans cette direction. Alors, il y a un affrontement, il y a une collision qui est prévue. Le fédéral dit qu'il faut permettre aux gens de pouvoir cultiver jusqu'à 4 plants de marijuana et c'est la meilleure façon de combattre le crime organisé. Alors que Québec dit, à n'importe question, on va autoriser simplement une faible possession, mais pas de culture à domicile parce que ça représente un trop grand danger, etc., etc., etc. Alors, là, toi, t'es le consommateur, tu fais quoi? Le fédéral te dit que légalement, tu as le droit d'en avoir 4 et plus, puis Québec te dit, nous, on a une juridiction qui nous permet de te l'interdire. Fait qu'on aura quoi? Un constat d'infraction, mais sans dossier criminel. Et le Parti québécois a voté contre. Parce qu'on n'a pas assez de détails sur la provenance des fonds des entreprises, que Québec n'est pas assez à cheval là-dessus. Et la CAQ trouve qu'à 18 ans, c'est trop jeune et promet même, en cas de victoire, de ramener ça à 21 ans. Ce qui va être difficile dans la mesure où, et le gouvernement Couillard avait raison là-dessus, tu te dois d'harmoniser avec ton voisin si tu ne veux pas commencer à avoir une espèce de compétition. L'autre chose, ça concerne la loi sur les établissements où on vend de l'alcool. Et on a vu quand même des mesures qui ont été annoncées, qui sont pas mal intéressantes. D'abord, vous pouvez acheter de la bière là, dans moins d'une heure dans les dépanneurs au Québec parce que la loi permet, au lieu de 8 heures, c'est 7 heures. Puis je me souviens, je pense, en commission parlementaire, j'avais entendu quelqu'un dire « Écoutez, moi, je suis un pêcheur, puis on s'achète de la bière. On ne peut pas attendre à 8 heures, tu sais, tu vas pêcher de bonne heure. » Alors là, ce sera permis. Par contre, ça stoppe à 23 heures. Et je sais qu'il y a un lobby de propriétaires qui voulait étirer ça jusqu'à 3 heures du matin. Le gouvernement a dit non. Mais là, dans les dépanneurs, ils ne seront plus obligés de mettre des grosses chaînes puis des cadenas sur les frigos. Alors là, ça va. Moi, j'avais pas mal de bémols là-dessus parce que là, tu fais quoi? Tu as l'employé de nuit qui est tout seul à 2 heures du matin ou 3 heures et 20. Quelqu'un entre puis il dit « Ben, je vais acheter de la bière. Tu y vends pas? » Là, s'il décide qu'il prend la caisse puis il part pareil, tu te mettras pas à courir après. Donc, c'est un peu bizarre. Également, vous allez pouvoir, par une belle soirée d'été, être sur une terrasse avec vos enfants. Vous êtes sur une terrasse de resto, vous prenez un verre de vin, vous êtes en train de souper. Et jusqu'à 23 heures, s'il fait beau puis s'il fait chaud puis vous voulez tirer ça, vos enfants vont pouvoir demeurer avec vous. Ils n'ont pas le droit de consommer, là. Mais vous allez pouvoir, donc, rester en famille. Et aussi, vous ne serez pas obligé de prendre les faux repas dans les restaurants pour pouvoir prendre un verre. Là, tu sais, quand on dit ben, faut que tu manges quelque chose, sinon je ne peux pas te vendre de l'alcool, ben, ça aussi, c'est une époque qui est terminée. Un mot sur la guerre commerciale avec notre ami Donald Trump. Le Canada, c'est la ministre Freeland qui se lance dans une offensive en sol américain. C'est une contre-attaque. Et d'abord, le premier fait qu'il faut rétablir, contrairement à ce que prétend le président des États-Unis, c'est pas vrai que la balance commerciale est défavorable aux Américains. Quand vous prenez les biens et les services, ça a une valeur des services, ben les Américains ont l'avantage, primo. Deuxièmement, il y a beaucoup de politiciens qui représentent des États, des districts qui sont, je dirais pas dépendants, mais très connectés sur le marché canadien et qui ont donc des intérêts à maintenir une libre circulation des biens. Et c'est vrai qu'il y a des nombreux obstacles, des tarifs sur des produits comme le lait. C'est vrai que la loi sur la gestion de l'offre dérange. D'ailleurs, Maxime Bernier s'est fait sortir du cabinet fantôme des conservateurs parce que lui, c'est un tenant de l'abolition. Puis il a le droit de défendre ses idées, mais en même temps, il ne peut pas être contre une politique fondamentale comme celle défendue par le chef conservateur. Puis M. Bernier avait dit que dans le fond, c'est les producteurs québécois de dernière minute là, qui avaient joint les rangs des conservateurs et qui voulaient sauver le régime. Ça a permis à M. Scheer d'être élu. Mais quoi qu'il en soit, donc, premier principe, les Américains ne perdent pas d'argent avec le Canada. Deux, comment, et M. Trudeau hier a dit qu'il était pour protéger la ferme québécoise et tout ça, très bien, mais on paie plus cher. Pourquoi on paie plus cher? Parce que ici, on demande aux consommateurs, en fixant les prix et en fixant les quotas, de payer plus. Aux États-Unis, on paye moins cher, mais l'État subventionne. Et là, c'est à coup de milliards dans l'industrie agroalimentaire. Alors, tu sais, faut arrêter de nous présenter les États-Unis comme une espèce de free market total, là. Et le Canada comme quelqu'un qui taxe, qui surtaxe. Il y a des ouvertures, entre autres vers l'Europe, pour l'importation de fromage, qui ne fait pas l'affaire des producteurs, c'est sûr. Mais quand vous avez l'enjeu, par exemple, du marché automobile en Ontario, c'est assez majeur. Et il faut toujours se rappeler qu'au final, quand on va tirer la ligne, ben c'est le consommateur qui va absorber les coûts en question. On va aller retrouver Marc, 6h14. Est-ce qu'on a quelques petits points chauds? Merci beaucoup. Un mot également sur le président Trump qui est de retour. Là, il est revenu cette nuit de cette rencontre historique à Singapour avec le dictateur nord-coréen. C'est assez fascinant quand tu penses à ça, là. L'espèce, je dirais, de stratégie de mettre Kim Jong-un sur un piédestal, là. Nous avons deux présidents avec des égos évidemment surdimensionnés. Monsieur Trump lui a présenté un petit film de 4 minutes, un montage sur les changements en Corée du Nord, sur ces deux êtres charismatiques qui sont en train de modifier l'histoire de la planète, des apôtres de la paix qui tiennent aux intérêts de leur peuple. Écoutez, là, ça dure 4 minutes, j'ai regardé ça hier, là. C'est comme une bande-annonce de film de Disney avec une musique grave, une voix forte, présente. Et là, on nous présente quasiment Kim Jong-un comme étant une espèce de leader incontournable de la planète. Juste rappeler, c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui a du sang dans les mains, sur les mains, et c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à emprisonner ou exécuter des opposants au régime, là. Alors que M. Trump lève le nez sur Cuba, là, c'est rendu, ben, je t'invite, puis on va se fréquenter, puis tu viendras aux États-Unis, puis j'irai faire un tour en Corée du Nord. Bon, cela étant dit, la Chine se réjouit. Parce que d'abord, la Corée du Nord vient d'atteindre un statut. M. Trump a aussi annoncé qu'il avait l'intention de retirer les militaires américains de la région, donc il n'y aura pas de manœuvre. Et on vient de stabiliser. Et ce sont des requêtes présentées par les Chinois depuis longtemps. Et comme j'entendais un analyste dire ce matin, la Chine présente un joli sourire devant le résultat de cette mission. Et le président Trump a dit qu'il avait obtenu toutes les garanties, sauf qu'il n'y a pas de date. On doit se fier à sa parole, puis il y a une intention de procéder au démantèlement de l'arsenal nucléaire. Ensuite, de retour ici pour parler de la mort de cette jeune femme cycliste, Valérie Bertrand Desrochers, 30 ans, qui a été happée mortellement par un poids lourd dans le quartier Rosemont. Ça s'est passé lundi matin. Pourquoi on revient là-dessus? Je vais parler avec Annie Thérien, qui est une ex-collègue de travail. Les deux étaient répartitrices au 9-1-1. Ça veut donc dire que leur travail dans la vie, c'est d'aider et de sauver des gens. C'est ça, par définition. Quand t'appelles au 9-1-1, c'est que t'as un problème, t'es en détresse. Et les gens qui reçoivent l'appel doivent te guider, te tenir compagnie jusqu'à l'arrivée des premiers secouristes ou des policiers. Pourquoi? Parce que sur le site de TVA, il y a des gens qui réagissent et qui commentent. Et c'est le langage, le bullying à l'endroit des cyclistes. Et elle veut juste prendre ce moment pour dire, en passant, cette cycliste qui est morte, elle a un nom. C'est une femme de 30 ans. C'est une femme qui était au 9-1-1. Et c'est une femme extraordinaire qui, malheureusement, est décédée. Trop tôt pour dire qu'est-ce qui s'est passé. J'entends, comme vous, les rumeurs qu'elle était en retard, qu'elle roulait trop vite, qu'elle n'a pas fait un arrêt, qu'elle peut-être conduisait son vélo de façon dangereuse. Je n'en sais rien. On va laisser les enquêteurs faire leur job, puis on verra ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est évidemment un drame terrible. Mais c'est aussi de voir qu'il y a des gens qui... Et je comprends là, que c'est une minorité, puis que c'est des trolls, puis qu'ils n'ont rien à faire dans la vie que de vomir sur les autres. Mais ce rapport entre l'automobiliste, le cycliste, le piéton, la cohabitation demeure toujours quand même difficile, fragile. Il ne faut jamais oublier que quand on est dans une voiture, on a un avantage de poids quand même assez considérable sur le piéton et sur le cycliste. Puis là, il faut éviter, je pense, les clichés, là. On connaît tous des cyclistes qui se promènent en fou, qui mettent leur vie en danger, qui n'ont aucun respect, qui sont même agressifs. Puis on connaît le même phénomène chez les automobilistes. Puis l'idée, c'est pas de quantifier. L'idée, là, c'est que c'est la belle saison. Puis on parle beaucoup des cyclistes, mais parlons des piétons aussi, là. Puis l'exemple que je pourrais vous donner rapidement ce matin, c'est ici sur la Gauchetière. Vous avez la gare, l'autre côté, puis la place Ville-Marie, puis vous avez place Bonaventure. Puis vous devez traverser aux intersections. Mais ça n'arrive pas, là. C'est plein de gens qui traversent. De temps en temps, les policiers viennent vous émettre des contraventions. Mais les gens te regardent, surveillent, essaient de passer, puis bon. Mais tu fais quoi, là? Tu réagis agressivement parce que dans ton char, il y a un piéton qui t'empêche d'aller prendre la verte, puis que tu vas attendre quelques secondes de plus au coin. Bien, j'en vois de ça, là. Du monde qui capote. L'autre jour, là, il y a un qui a baissé sa vitre puis qui a dit « Hey, t'as pas le droit de traverser ici, tu vas être en retard sur ma lumière. » Encore là, une anecdote. Mais je pense que c'est important de se rappeler que, d'abord et avant tout, il y a des humains qui se promènent, là, que ce soit à pied, en vélo ou en auto, puis qu'on est dans une ville puis qu'il y a plein d'emmerdes là, avec des chantiers puis des entraves, évidemment. Aussi, ce matin... peut-être un mot en terminant sur le rapport de la vérificatrice qui va être rendu public aujourd'hui à Québec au sujet des allégations d'Annie Trudel. Vous savez qu'Annie Trudel a dit que avec Guy Ouellet, qu'il y avait comme une espèce de racket qui faisait en sorte que des gens de l'UPAC et de l'Autorité des marchés financiers donnaient l'accréditation, donc la fameuse patte blanche, là, en échange peut-être d'argent, puis que des professionnels... Autrement dit, on prenait un chef d'entreprise qui voulait avoir ses papiers de l'AMF, là, puis on disait, bon, ben fais affaire avec telle firme, là, puis eux autres sont branchés direct, puis ça va te coûter tant, puis tu vas avoir les permis. La VG a enquêté. Elle dit que c'est faux de A à Z, que l'histoire de Denis Trudel ne tient pas la route. C'est dans la presse ce matin que vous allez retrouver les détails de cette histoire-là. Tonia Curceau qui termine son témoignage. On va attendre la décision. M. Accurso reconnaît qu'il y a des gens sous lui qui ont posé des gestes. Il y en a qui ont plaidé coupables. Mais son argument de base, c'est de dire que l'avoir su, il l'aurait arrêté, qu'il n'avait pas intérêt à mettre en péril son entreprise pour à peu près 3 % du chiffre d'affaires. Qui n'est pas assez imbécile pour avoir fait ça. Alors, évidemment, la Couronne a un autre argumentaire qui est de dire qu'il était connecté, qu'il savait qu'il allait rencontrer le maire Vaillancourt puis qu'il était au courant de la façon dont ça fonctionnait. Et que, raison de plus, même s'il y a des gens qui ont posé des gestes illégaux dans son administration, il ne les a pas congédiés en disant que c'est du bon monde puis ça fait partie, finalement, de la grande famille des entreprises de Tony Accurso. Et un petit clin d'œil en finissant pour vous dire que la saison du homard est quasi terminée. Parce que vous savez qu'on a décidé, pour protéger la baleine noire, de restreindre les zones de pêche, la durée comme telle. Donc, la saison du homard est terminée. Un qui est bien déçu de ça, c'est le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, qui aime beaucoup le homard, qui se fait venir des petits lunchs. C'est pas sur le menu du restaurant du Parlement. Mais lui, a un bon vin, là. Un chablis, par exemple, quelque chose, ou un chardonnay, là, tu sais, avec le homard. C'est tellement bon, surtout quand tu payes pas. 6h22 minutes. 25 secteurs de Terrebonne.